le cardinal Newman, un spirituel pour notre temps. Historien, théologien, poète, homme d'action et grand spirituel, l'étonnant parcours de ce chercheur de la vérité, né dans l'anglicanisme, découvrant dans le catholicisme la grande tradition apostolique. Ordonné prêtre en 1847, créé cardinal en 1879, le cardinal Newman sera bientôt béatifié. Voici la conférence du père Kate Beaumont de l'Oratoire de France, présidente de l'Association française des Amis de Newman. Conférence enregistrée à la maison diocésaine de Bayonne le 19 mai 2009. Voici la première partie de cette conférence. Je laisse le soin à l'animateur spirituel de la maison diocésaine, le père Pierre Boyer, de vous présenter le conférencier.
Le père Beaumont est d'origine australienne, comme son nom ne l'indique pas. Mais il y a des origines antérieures. Il est prêtre de l'Oratoire de France. Il nous en dira un petit mot aussi, parce que je crois que l'Oratoire, ce n'est pas forcément très connu. C'est une société sacerdotale, une société de prêtres. Donc il est bon aussi peut-être d'en dire un mot, d'autant plus que Newman lui-même avait fondé l'Oratoire de Birmingham. Donc il y a des liens très forts entre cette spiritualité. Le père Beaumont, après avoir enseigné pendant de nombreuses années en Angleterre la littérature française, est donc ici en France et où il enseigne toujours, mais plus la littérature française. Mais par contre, c'est un grand promoteur de la spiritualité, de l'enseignement newmanien. Et il est souvent appelé ici ou là, mais c'est la première fois à Bayonne pour parler du cardinal Newman. Et il est aussi président d'une association, puisqu'il y a une association en France, l'Association française des amis de Newman, que j'ai eu l'occasion de rencontrer, de côtoyer au mois d'octobre, je crois, ou novembre. Novembre, c'était en novembre, et pour un colloque à Paris, donc fort intéressant. Et c'est là que j'ai eu l'idée donc, de faire venir le père Beaumont pour nous partager sa connaissance et sa proximité et son enthousiasme aussi pour le cardinal Newman. Voilà, je lui laisse la parole parce qu'elle est beaucoup plus intéressante que la mienne.
Bonsoir à tous, merci d'être venus. Merci au père Boyer pour ces mots d'introduction. Il m'a proposé de vous dire deux mots de ma congrégation, de l'Oratoire, qui est une société de prêtres fondée au début du XVIIe siècle en France par le cardinal de Bérulle en 1611, le 11-11-1611. C'est facile à retenir. Et il y a une autre branche de l'oratoire qui était fondée par Saint-Philippe Neri à Rome une quarantaine d'années plus tôt. Et Newman a fondé en Angleterre cette autre branche, l'oratoire de Saint-Philippe Neri. Nous n'avons pas de lien structurel avec nos confrères de l'oratoire de Saint-Philippe Neri, mais nous avons des liens d'amitié. Je connais très bien l'oratoire de Birmingham fondé par Newman, l'oratoire d'Oxford. Je connais d'autres oratoires du même genre, donc voilà, nous sommes un peu de la même famille spirituelle. Je suis également président de cette petite association qui s'appelle Association française des amis de Newman. Française signifie francophone, car nous avons des membres suisses et belges. Et c'est une petite association qui existe depuis 25 ans, dont l'objectif est d'organiser, de travailler à des traductions de l'œuvre de Newman en français, promouvoir des études sur Newman, etc., etc. Nous avons une revue annuelle, les études newmaniennes, et un colloque tous les deux ans sur des thèmes divers. Le dernier colloque était sur la prédication de Newman, le colloque précédent sur le thème de la conscience dans l'œuvre de Newman. Le prochain colloque, en 2010, sera sur le thème de la sainteté dans l'œuvre de Newman. Car Newman va être béatifié, c'est quasiment certain. Ce n'est pas encore officiel, donc vous n'en savez rien, et je n'ai rien dit. Mais ça va de l'avant, il n'y a aucune raison de supposer que cela ne se fera pas. Voilà, si vous êtes intéressé par cette petite association des amis de Newman, soit vous allez sur le site internet, vous cherchez John Henry Newman, non pas Paul, John Henry. Soit vous cherchez sur la petite bibliographie que vous avez l'adresse en bas. Voilà. Alors, qui est Newman? Quelques mots d'introduction. C'est un des géants de la pensée chrétienne des temps modernes. En tant que théologien, mais plus encore, me semble-t-il, en tant que guide spirituel. Il fut à la fois un intellectuel, un homme d'action et un homme de prière. Intellectuel, il fut un écrivain extraordinairement prolifique. Il a publié plus d'une quarantaine de livres. Il existe de nombreux inédits et on a publié de lui plus de 20 000 lettres. On a perdu les lettres, mais plus de 20 000 lettres ont survécu, qui ont été publiées en 32 gros volumes. Une foule de personnes écrivaient à Newman pour chercher conseil. Il répondait systématiquement à chacune. J'avoue que je n'ai pas tout lu de Newman. Je pense qu'il faudrait plusieurs vies pour tout lire. Son œuvre comporte aussi une diversité étonnante. 12 volumes de sermons, une demi-douzaine d'ouvrages théologiques, un grand nombre d'essais historiques consacrés surtout au Père de l'Église, dont il fut un des meilleurs connaisseurs à son époque, un ouvrage de référence sur les principes de l'enseignement universitaire, une autobiographie intellectuelle, des prières, des textes de méditation, des poèmes et même deux romans. Lorsque, déjà de son vivant, des partisans un peu trop enthousiastes à son gré le traitaient de saint, Newman protestait en disant que les saints n'écrivent pas de romans. S'il y a parmi vous des romanciers, c'est mal barré. Il a passé une première moitié de sa vie jusqu'à l'âge de 44 ans dans l'église anglicane et la suite jusqu'à l'âge de 89 ans dans l'église catholique. Il a travaillé assidûment au renouveau de chacune de ces deux églises, bien que son influence sur l'église catholique ne se soit exercée après sa mort, pas surtout après sa mort. On a souvent parlé de son influence sur le Concile Vatican II. Le philosophe Jean Guiton l'appelait le penseur invisible de Vatican II. Le pape Paul VI a vu en lui, je cite, un grand précurseur du Concile et a déclaré en 1964, en plein cœur du Concile, que la lucidité de ses intuitions et de ses enseignements projette sur l'Église d'aujourd'hui une précieuse lumière. Benoît XVI a souligné à plusieurs reprises l'influence profonde de Newman sur sa propre pensée et sur celle de toute sa génération. Il affirme aussi que c'est chez Newman que nous pouvons apprendre ce que signifie vraiment l'esprit de Vatican II. Alors, mon objectif ce soir n'est pas tant de vous parler de Newman théologien que de Newman guide spirituel. Cependant, ces deux aspects de sa pensée sont, chez lui, intimement liés. Il illustre une formule que je répète inlassablement dans mes cours et conférences. Notre manière de penser Dieu détermine notre manière de le prier ou de ne pas le prier. Notre manière de penser Dieu détermine notre manière de le chercher ou de ne pas le chercher. J'aurai l'occasion de le redire. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, pour ceux qui ne connaîtraient pas bien la personne de Newman, voici quelques éléments de sa vie et de son œuvre. Il naît à Londres en 1801, dans une famille bourgeoise, une famille appartenant, comme la plupart des Anglais, alors qu'ils se respectent, à l'Église anglicane, ou l'Église d'Angleterre, qui est l'Église établie du pays, c'est-à-dire l'Église officielle, liée à l'État, dont le chef temporel est le roi ou le souverain, et dont la législation dépend d'un vote du Parlement. Comme chez la plupart des Anglicans de l'époque, c'est une famille peu pratiquante, peu pratiquante. En revanche, la lecture de la Bible occupe une place centrale. Chaque famille possède sa Bible, dans la belle traduction dite du roi Jacques, the King James Version, qui date de l'époque de Shakespeare et qui est un des chefs-d'œuvre de la littérature anglaise. On la lit non seulement à l'église, mais chez soi, seul et en famille. Et Newman, dès qu'il sait lire, est imprégné de la lecture de la Bible. Doué d'une mémoire extraordinaire, il en apprend des chapitres et même des livres entiers par cœur. À l'âge de 15 ans, il fait une expérience qui détermine le cours de sa vie. Lui-même l'appelle sa première conversion. C'est même au sens strict du terme, son unique conversion. Car le sens premier du mot conversion, ce n'est pas quitter une église pour une autre, une confession chrétienne pour une autre, c'est se détourner de soi-même pour se tourner vers Dieu. Et Newman fait, en effet, une expérience éblouissante de Dieu. Non pas comme l'objet d'une réflexion, mais comme le sujet d'une expérience. Il l'évoque dans son autobiographie, Apologia pro vita sua, dans une formule qui a fait couler beaucoup d'encre. Il parle de sa découverte de deux êtres, et deux êtres seulement, dont l'évidence était absolue et lumineuse, moi-même et mon Créateur. Pourquoi moi-même d'abord et ensuite mon Créateur? Tout simplement parce que la structure de la phrase suit le mouvement de la pensée. La structure de la phrase suit le mouvement d'une prise de conscience. Le garçon de 15 ans devient conscient de lui-même d'abord, en tant qu'être conscient, et puis, au plus intime de cette conscience de soi, il découvre la présence d'un autre, avec majuscule, en qui il reconnaît Dieu. Son expérience rappelle celle de saint Augustin, « Dieu est plus intérieur à moi que je ne le suis à moi-même ». Et en appelant Dieu mon Créateur, il se situe dans une relation de dépendance. Il se reconnaît lui-même comme créature de Dieu. Il désire se laisser créer ou recréer par Dieu. C'est un élève brillant et précoce qui est inscrit à l'âge de 16 ans seulement à l'université d'Oxford, qui est alors une université anglicane et le principal séminaire du pays. Il va rester à Oxford pendant 28 ans, presque le tiers de sa vie, comme étudiant d'abord, ensuite comme enseignant et chercheur, comme membre agrégé ou fellow, comme on dit, du plus brillant des collèges d'Oxford, Oriel College. Mais cet universitaire veut aussi être prêtre, ou comme il le dit dans son propre langage, ministre du Christ. Exceptionnellement, pour un anglican de l'époque, il conçoit son ordination comme une consécration de toute sa vie. Il voit un lien intime entre cette consécration et le célibat, et à l'époque c'est une chose inouïe, et au lendemain de son ordination diaconale, il note dans son journal intime cette phrase « Je porte la responsabilité des âmes jusqu'au jour de ma mort ». À Oriel College, il découvre avec passion les pères de l'Église, que presque plus personne ne lit à l'époque. Il commence à les lire et à les étudier systématiquement, dans le texte original bien entendu. Il parle ou il comprend le grec et le latin, comme vous et moi, l'anglais et le français. Petit à petit, cette lecture et cette étude renouvellent en profondeur sa propre pensée. Il découvre ce qu'il appelle la dimension catholique, c'est-à-dire universelle, de l'Église. Il découvre l'importance de ce qu'il appelle l'apostolicité, c'est-à-dire l'enracinement dans une tradition qui remonte jusqu'aux apôtres. Or, l'Église anglicane, à l'époque, a perdu cette conscience catholique et apostolique. Elle est devenue avant tout une Église nationale et elle se considère elle-même comme essentiellement protestante. Elle s'appelle même protestante. Et à partir de 1833, Newman et ses amis entreprennent depuis Oxford, d'où le nom de mouvement d'Oxford, de recatholiciser cette Église, en la faisant redécouvrir toute une tradition qui a été perdue, et de l'enraciner de nouveau dans cette tradition apostolique. Ils rédigent des tracts, des pamphlets polémiques pour diffuser leurs pensées. Ils publient des anthologies d'extraits des œuvres des pères. Newman donne des conférences qu'il publie ensuite sous forme de livres. Et surtout, il prêche. En 1828, en effet, il a été nommé curé de la paroisse de St. Mary the Virgin, Sainte Vierge Marie, qui est au cœur d'Oxford. C'est là qu'il prêche la plupart des 600 sermons que nous possédons de lui, datant de la période anglicane, et dont il publie une partie, à peu près le tiers, en 8 volumes, Petit à petit, cette prédication attire les étudiants et les enseignants de l'université. On vient de loin pour l'écouter. Et Newman devient l'un des deux prédicateurs les plus écoutés, les plus lus et les plus influents de tout le pays. Selon les critères d'aujourd'hui, il fait tout ce qu'il ne faut pas faire. Ses sermons étaient longs, rarement moins d'une demi-heure, parfois beaucoup plus. Il lisait un texte écrit sans lever les yeux vers son auditoire. Il avait aussi une manière de parler très personnelle. Il parlait rapidement, d'une voix musicale, puis il laissait de longues pauses entre les phrases. J'étais tenté parfois d'adopter le même style, je n'ai jamais osé. Et pourtant, l'effet sur ses auditeurs était, de l'aveu de tous, envoûtant. Un témoin dit qu'il touchait du doigt quelque endroit intime du cœur de son auditeur et lui apprenait des choses sur lui-même que jusqu'alors il n'avait jamais su. Un autre déclare qu'il avait le pouvoir merveilleux, surnaturel, d'élever l'esprit à Dieu et d'enraciner profondément en nous le sens de sa présence. Cette prédication est doctrinale ou dogmatique. Je rappelle simplement le sens étymologique du mot « dogma », qui veut dire en grec « dogma », « pensée » ou « opinion ». Elle pose une exigence morale d'une grande rigueur, mais sans jamais tomber dans le moralisme, et elle est d'une pénétration psychologique profonde. Un témoin a dit qu'il disséquait l'âme de ses auditeurs comme avec un scalpel. Et les conseils spirituels que donne Newman sont enracinés dans une pénétration psychologique lucide, dense et décapante. Le but de cette prédication, selon Newman lui-même, est double. Il est d'abord de nous révéler à nous-mêmes, de, je cite, de nous faire tourner le regard vers notre cœur pour le sonder, et ensuite d'allumer dans nos cœurs le visage du Christ. Il faut insister sur l'importance de cette prédication, car le mouvement d'Oxford n'est pas simplement un mouvement d'idées destiné à renouveler la pensée anglicane. Il est d'abord et avant tout un mouvement de renouveau spirituel, à travers la redécouverte de la vie sacramentelle, de la vie liturgique, de la vie de prière. Cependant, à force de creuser le sens de l'Église, le sens de la catholicité, de l'apostolicité, Newman en vient à douter de la fidélité de l'Église anglicane à l'Église des premiers siècles qui était pour lui la référence absolue. Au contraire, il lui semble peu à peu que c'est l'Église catholique romaine, objet d'une haine viscérale de la part de la presque totalité des Anglais à l'époque, qui est le véritable continuateur de ce qu'il appelle l'Église des apôtres. Mais Newman n'est pas un homme à prendre une décision rapide. Au contraire, il veut mettre à l'épreuve ses convictions naissantes. Pendant 3 ans et demi, il vit avec quelques compagnons une vie semi-monastique, faite d'études, de réflexions, de prières et d'ascèse. Finalement, le 9 octobre 1845, il est reçu dans l'Église catholique par le père Dominique Barberi, religieux passionniste italien, alors en mission en Angleterre. C'est pour Newman l'occasion d'une rupture personnelle terrible. Il perd son poste à Oxford, qui est une université anglicane. Il perd les revenus considérables attachés à ce poste. Et il craint de perdre les revenus venant de la vente de ses livres. Pire encore, il perd la plupart de ses amis, car dans le contexte de l'époque, il est presque inconcevable que des anglicans et des catholiques puissent continuer à se fréquenter. Et il est même rejeté par sa propre famille. Rupture personnelle terrible, donc. Mais en aucune façon, il ne vit une rupture intellectuelle. Il a tout simplement l'impression, comme il le dira lui-même dans l'Apologia, de rentrer au port après une violente tempête. Pendant 20 ans, Newman se trouve mis au ban de la société anglaise. Il est régulièrement attaqué, insulté, vilipendé. C'est pour répondre à une telle attaque qui met en doute non seulement son respect personnel de la vérité, mais celui du clergé catholique tout entier, qu'il écrit en 1864 le récit de son évolution personnelle. C'est le célèbre Apologia pro vita sua, ou Histoire de mes opinions religieuses. C'est le début d'un revirement étonnant de l'opinion publique en sa faveur, et le début aussi d'une réhabilitation de l'ensemble des catholiques dans l'opinion publique anglaise. D'autres livres suivent, également bien reçus, et il finit par republier l'ensemble de ses livres de la période anglicane, sans, en général, y changer quoi que ce soit. Seulement, l'Église catholique, tout en se réjouissant triomphalement de sa conversion, comme on disait à l'époque, ne sait guère que faire d'un homme aussi brillant, aussi original, ayant une pensée souvent en décalage avec l'étroitesse de la pensée catholique de l'époque. On lui confie des missions qui tournent court, faute de soutien de la part de la hiérarchie. Création d'une université catholique en Irlande, nouvelle traduction en anglais de la Bible, direction d'une revue que les évêques souhaitent faire rentrer dans les rangs, et à un moment donné, il est même dénoncé à Rome pour hérésie. Il va falloir attendre sa 78e année avant de recevoir une reconnaissance au plus haut niveau, lorsque, en 1879, le nouveau pape Léon XIII le fait cardinal. C'est un choix personnel du pape, une reconnaissance explicite de la validité de sa pensée et l'annonce d'une nouvelle direction que Léon XIII veut donner à son pontificat. Newman meurt enfin, comblé d'honneur, à l'âge de 89 ans, objet de l'estime et même d'un amour profond de la part de l'immense majorité des peuples anglophones, toutes confessions chrétiennes confondues. Alors quel est son intérêt pour nous aujourd'hui? Une bonne partie de sa pensée théologique a été intégrée par l'Église depuis Vatican II. Mais toutes les nuances de cette pensée, complexes et subtiles, sont loin d'avoir été pleinement intégrées. Et surtout, son enseignement spirituel a été peu étudié. Permettez-moi de formuler un paradoxe. Si Newman peut nous être d'une aide précieuse aujourd'hui, c'est en partie seulement, mais en partie quand même, parce qu'il vient d'ailleurs. Tout d'abord, il y a le fait qu'il soit anglais. Je ne veux pas dire par là que les Anglais possèdent toutes les vertus, bien entendu. Mais il a été façonné par un mode de pensée différent du nôtre. Nous pensons spontanément en termes d'opposition. Droite, gauche, traditionnaliste, progressiste. Ou ceci, ou cela. Newman, marqué par la tradition philosophique anglaise de l'empirisme, a une autre approche. Il pense spontanément en termes de complémentarité, non pas en termes de ceci ou cela, mais en termes de ceci, et puis cela, et puis encore cela, et encore ceci, et cela. Il cherche à voir tous les aspects multiples du réel, tous les côtés d'un argument. On a dit de lui qu'il est donc à la fois traditionnaliste et progressiste, conservateur et libéral, dogmatique et pragmatique, idéaliste et réaliste. Et j'ose croire non seulement que sa manière de penser est moins idéologique que notre pensée en termes d'opposition, mais qu'elle sert de plus près la complexité du réel. Deuxième point, et c'est un trait de sa pensée très important, Newman a le souci permanent de la cohérence, le souci de la recherche des rapports entre les choses. Il y a une formule qui revient souvent dans ses écrits sur l'éducation universitaire, c'est littéralement une vue connectée des choses. Il nous invite à notre tour à rechercher les connexions, les rapports entre les choses. Par exemple, entre pensée et action, entre foi et raison, entre foi et vie spirituelle, ou encore entre théologie et vie spirituelle. Troisième remarque, et c'est tout aussi important. Newman vient du protestantisme, c'est-à-dire d'une tradition qui privilégie d'abord la relation personnelle à Dieu et qui s'appuie avant tout sur l'Écriture. Or, il ne renie jamais ce qui constitue l'essentiel de cette tradition. Simplement, il finit par l'intégrer dans un cadre plus large et plus riche. Il intègre son protestantisme dans son catholicisme. Et c'est cela en partie qui lui permet d'approfondir la réflexion de l'Église catholique et de contribuer au dialogue œcuménique aujourd'hui. Quatrième remarque. Newman renouvelle la théologie et la spiritualité de son époque en revenant aux sources, en retournant bien évidemment à la Bible, dont sa pensée est pénétrée dès son plus jeune âge, mais aussi en redécouvrant et en faisant redécouvrir la pensée des pères de l'Église. Cette découverte renouvelle profondément sa propre pensée théologique et lui permet d'aider l'Église à renouveler la sienne. Comme le Concile Vatican II, mais plus d'un siècle avant Vatican II, Newman renouvelle la pensée de l'Église par un retour aux sources, ou en d'autres termes, par une redécouverte de la tradition. Tradition avec majuscule. Tradition au sens le plus riche et le plus dynamique de ce terme trop souvent mal compris. Enfin, Newman est, comme le dit bien le titre d'un des livres du cardinal Honoré, un homme de Dieu. Il est non seulement un homme qui pense Dieu, mais un homme qui vit de Dieu. Un homme pour qui Dieu n'est pas seulement l'objet d'une réflexion, mais aussi et d'abord le sujet d'une expérience. Le sens profond de la présence de Dieu en lui semble avoir été une constante tout au long de sa vie. Il nous aide, nous, à mieux penser Dieu, pour mieux le chercher. Alors, Newman, guide spirituel pour aujourd'hui, il faudrait tout un livre pour traiter convenablement le sujet. C'est le livre que j'essaye en ce moment d'écrire. Je voudrais ce soir simplement essayer de creuser quatre thèmes de sa pensée. Premièrement, sa conception des rapports entre théologie et spiritualité. Ensuite, sa conception de la foi. Troisièmement, sa conception de la vie chrétienne considérée comme un entraînement spirituel. Un entraînement spirituel. Et puis, quatrièmement, ce que j'appellerais volontiers son humanisme spirituel. Son humanisme spirituel. Tout d'abord donc, les rapports entre théologie et vie spirituelle. Aujourd'hui, le mot théologie désigne un savoir sur Dieu, ou la science de Dieu, comme la psychologie est la science de l'esprit humain, du grec psyché ou psyché, ou la géologie la science de la terre, en grec gai. C'est un savoir ou une science qui se veut aussi systématique, organisée et rationnelle que possible. Elle est donc une activité essentiellement intellectuelle. Le théologien cherche à penser Dieu. Or, c'est un sens relativement moderne, relativement en termes de l'histoire de l'Église, qui date du XIIe siècle et qui ne s'est imposé que vers la fin du XIIIe. Pour les pères de l'Église, le théologien est d'abord celui qui cherche Dieu dans la méditation de l'Écriture ou tout simplement dans la prière. Une définition proposée par un moine de la fin du IVe siècle affirme que « si tu es théologien, tu prieras vraiment, et si tu pries vraiment, tu es théologien. » Les pères ne cessent de commenter cette formule des béatitudes « heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. » Pardon, j'ai sauté une phrase là. Les pères insistent aussi sur le lien étroit entre théologie, c'est-à-dire recherche de Dieu, et vie morale ou éthique. La connaissance intérieure et spirituelle de Dieu suppose un travail de purification intérieure. Et les pères ne cessent de commenter la formule des béatitudes « Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu ». Le mot « pur » signifiant ici « unifié, sans mélange ». Comme on dit encore dans le langage de la chimie, qu'une substance est chimiquement pure. Saint Athanase, patriarche d'Alexandrie au IVe siècle, et grand défenseur de la foi trinitaire contre l'hérésie arienne, qui sera un héros pour Newman. Saint Athanase affirme que celui qui veut comprendre la pensée des théologiens doit au préalable purifier sa manière de vivre. Lui et d'autres emploient l'image des yeux qu'il faut nettoyer afin que l'on puisse voir la lumière. Saint Augustin utilise la jolie image de la maison qu'il veut ranger et nettoyer. Je le cite. Tu me dis, montre-moi ton Dieu. Je te réponds, regarde un peu ton cœur. Tout ce que tu y vois qui puisse attrister Dieu, ôte-le. Dieu veut venir en toi. Écoute le Christ, ton Seigneur. Mon Père et moi irons à lui et nous habiterons en lui. Voilà la promesse de Dieu. Si moi j'annonçais ma visite, tu nettoyerais ta maison. Et c'est Dieu qui veut venir en ton cœur et tu ne te hâtes pas de le nettoyer. Un détail complémentaire mais capital, le sens du mot spiritualité. Aujourd'hui, le mot veut dire tout et n'importe quoi. On a même proposé de fausses étymologies, prétendant que spirituel en français viendrait du grec psychikos, psychique. Se rapportant donc à la psyché, l'esprit, la vie de l'intellect. Le spirituel, par excellence, serait donc celui qui pense, le philosophe. Alors, historiquement, cela est complètement faux, complètement. Spirituel, en français, à travers le latin spiritualis, vient du grec pneumatikos, qui vient de pneuma. Dans le grec classique, ce mot a un sens faible et banal. Il désigne la respiration, le vent, parfois l'inspiration poétique. Mais le christianisme, dès saint Paul, lui donne un sens nouveau et beaucoup plus riche. Le spirituel, c'est tout ce qui vient de la présence et du travail en nous de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint. La conception chrétienne de Dieu est en effet profondément trinitaire. Je ne vais pas vous faire un cours sur la Trinité, je voudrais simplement essayer de donner quelques indications. Parler de la Trinité, c'est essayer d'exprimer avec nos moyens humains, limités, imparfaits, balbutiants, une perception ou une intuition de Dieu comme mystère de communication. Mystère de communication. Par le Fils et dans l'Esprit, Dieu nous communique quelque chose de sa propre vie, de cette vie qui est amour, paix, joie, pardon, miséricorde. Pour la tradition chrétienne, donc, jusqu'au XVIIe siècle inclus, la vie spirituelle, c'est la vie de l'Esprit en nous. Et comme l'Esprit Saint est à la fois l'Esprit du Père et l'Esprit du Fils, la vie spirituelle, c'est la présence et le travail en nous de Dieu lui-même. Par exemple, Pierre de Bérulle, fondateur au début du XVIIe siècle en France de l'oratoire, je vends ma marchandise, et principal inspirateur de ce qu'on appelle l'école française de spiritualité, cite inlassablement les mots de saint Paul en Galates, chapitre 2, verset 20, « Je vis, mais ce n'est pas moi, c'est le Christ qui vit en moi. » Il définit la vie spirituelle comme la vie de Jésus-Christ en nous. Son disciple, Jean-Jacques Ollier, fondateur de la Compagnie de Saint-Sulpice, dans la toute première leçon de son catéchisme chrétien pour la vie intérieure, définit le chrétien comme celui en qui habite l'Esprit de Jésus-Christ, faisant référence explicite à ces paroles de saint Paul. Celui qui n'a pas l'Esprit de Jésus-Christ ne lui appartient pas. Or, au cours des siècles qui suivent, cette vision trinitaire s'estompe et se perd. C'est seulement aujourd'hui que nous commençons à la retrouver, mais d'énormes progrès restent encore à faire. Newman, en revanche, grâce au Père de l'Église, assimile et intègre à sa propre pensée cette sagesse profonde, cette conception des rapports entre Dieu et l'homme, et entre théologie et vie spirituelle. Je reviens à la formule déjà citée. Notre manière de penser Dieu détermine notre manière de le prier, de le chercher, etc., ou bien notre incapacité ou notre refus de le faire. Posons-nous donc deux questions. Quelle est notre conception de Dieu? Et quelle est notre conception ou notre définition du chrétien? Pour la plupart de nos contemporains, qu'ils soient croyants ou non, le chrétien se définit le plus souvent, soit par un croire, soit par un agir. C'est celui qui croit certaines choses, qui adhère à certaines croyances, d'où l'appellation devenue presque universelle de croyant, ou bien c'est celui qui vit ou qui cherche à vivre selon certaines valeurs, le souci de la justice, de la solidarité, la fraternité, etc. Combien de parents viennent inscrire leurs enfants au catéchisme pour qu'ils apprennent les valeurs chrétiennes? Selon cette perspective, le christianisme comporterait essentiellement deux dimensions, une dimension intellectuelle et ou une dimension morale. Mais il existe aussi une troisième dimension qui est tout aussi essentielle et qui se trouve au cœur de l'enseignement de Newman. Dans un sermon de 1838, il propose la définition suivante du chrétien. Un vrai chrétien peut être presque défini comme un homme qui a un sens souverain de la présence de Dieu en lui. Un vrai chrétien est celui qui, en ce sens, a foi en lui, au point de vivre dans la pensée que Dieu lui est présent, présent non extérieurement, non seulement dans la nature ou la providence, mais au fond de son cœur ou dans sa conscience. Newman nous présente donc une vision de la vie chrétienne que j'appellerai volontiers tridimensionnelle, qui relie pensée, action et vie intérieure. Et à mon sens, il est essentiel pour nous, aujourd'hui, de retrouver cette vision. J'oserais même dire que l'avenir du christianisme dans notre société occidentale passe par là. Si nous ne le faisons pas, si nous ne redécouvrons pas cette vision de la vie chrétienne, nos églises vont continuer à se vider et nous ne répondrons pas aux attentes spirituelles des hommes d'aujourd'hui. Et ici, Newman peut nous être d'une aide extraordinaire, lui qui est à la fois théologien et spirituel.
Le cardinal Newman, un spirituel pour notre temps, vous venez de suivre la première partie de la conférence du père Keith Beaumont de l'Oratoire de France, président de l'Association française des Amis de Newman, conférence enregistrée le 19 mai 2009 à la maison diocésaine de Bayonne. La semaine prochaine, même jour, même heure, sur cette antenne, vous pourrez entendre la seconde et dernière partie de la conférence du père Keith Beaumont. Pour terminer, signalons que le cardinal John Henry Newman a été béatifié par le pape Benoît XVI le 19 septembre 2010 et canonisé par le pape François le 13 octobre 2019.